Chapitre 54. Alors qu'Arman se déshabillait dans la crypte de cristal sous la masse de marbre du Taj Muara, il se rendit compte à quel point il faisait froid dans cette cage de verre. La température était sans doute aussi basse sous l'immense dôme, mais la thermopompe qu'il avait enfilée à bord de l'Efelban l'avait empêché de s'en apercevoir. Il s'immobilisa devant le cercueil transparent, à demi nu, ses vêtements entassés à ses pieds, le torse et les bras hérissés de chair de poule. « Ce que je vais faire est mal, irrémédiablement mal. » Arman et ses semblables avaient passé toute leur vie dans la crainte des postes humains vivant dans les anneaux orbitaux, croyant dur comme fer qu'ils iraient les rejoindre pour l'éternité à l'issue de leur dernier fax. Mais leur notion de religion s'arrêtait là. Seule l'épopée du Turin, avec ses redoutables dieux grecs et les cérémonies qu'ils inspiraient, leur avait donné un aperçu du sentiment religieux. Mais Arman se sentait sur le point de commettre un péché. « La vie d'Ada, la vie de tous les miens, dépend peut-être de cette femme que je dois réveiller. Forniquer avec une femme morte ou endormie, murmura-t-il, c'est mal, c'est de la folie. » Il jeta un regard derrière lui, mais fidèle à sa promesse, Prospero brillait par son absence. Arman acheva d'ôter sa thermopo. L'air était frigorifiant. Il baissa les yeux et faillit éclater de rire en se découvrant fripé et rétracté. Et si ce vieux fou m'avait fait une blague? Peut-être que Prospero le reluquait en douce, protégé par une cape d'invisibilité ou quelque autre panoplie magique. Arman se planta devant le cercueil de cristal et s'ébroua. Le froid expliquait en partie son état, mais ce qu'il allait faire n'en était pas moins déplaisant. L'idée même qu'il puisse descendre du dénommé Aman Ferdinand Marc Alonso Canotep le mettait mal à l'aise. Il revit Ada, blessée et inconsciente, gisant en haut du sinistre rocher des affamés, entouré de quelques survivants du massacre d'Ardis. Qu'est-ce qui me prouve que ces images étaient réelles? Prospero a sûrement le moyen de trafiquer un Turin. Mais il devait agir comme si telle était la réalité. Il devait agir comme si Prospero disait vrai, en affirmant qu'il devait apprendre, qu'il devait changer, qu'il devait lutter contre ces Thébos, les Voynix et les Calibani. Ou alors, tout était perdu. Mais que peut bien faire un homme qui a vécu ses 5-20 ? Se demanda Arman. Comme pour répondre à cette question, il se hissa sur le rebord de la grande crèche. Il s'introduisit dans l'habitacle avec un luxe de précaution, veillant à ne pas toucher les pieds nus de la femme. Le champ de force semi-perméable lui donna la sensation de plonger dans un bain chaud, et il se sentit parcouru de picotements. À présent, seule sa tête et ses épaules émergeaient de cette chaleur. Le cercueil était long et large, suffisamment large pour qu'il s'étende aux côtés de la femme endormie sans la toucher. La couche sur laquelle elle reposait semblait tissée dans la soie, mais elle donnait au toucher l'impression d'être composée de fibres métalliques. Maintenant qu'Arman avait pénétré au sein de la crèche temporelle, il sentait les vibrations et les pulsations du champ énergétique qui conservait cette sosie de sa vie jeune dans son sommeil prolongé. « Si je rentre complètement dans ce champ de force, songea-t-il, peut-être que je vais m'endormir pour 15 siècles, ce qui résoudrait d'un coup tous mes problèmes. Notamment celui de savoir ce que je vais faire ensuite. » Il s'abaissa, glissant la tête sous l'enveloppe du champ de force, aussi timoré qu'un nageur débutant. Il se tenait maintenant à 4 pattes au-dessus des jambes de la femme. L'air était sensiblement plus chaud, il percevait bien les vibrations émises par la machinerie du sarcophage, mais il ne s'endormit point. Et ensuite, sans doute lui était-il déjà arrivé de se sentir aussi gêné, mais il n'arrivait pas à se rappeler quand. Tout comme le concept de péché, celui de viol était totalement étranger à son univers. Il n'existait ni loi ni système judiciaire dans le monde aujourd'hui disparu des humains à l'ancienne, mais on y ignorait également l'agression sexuelle et toute forme de contrainte amoureuse. Si les notions de loi, de police et de prison y étaient inconnues, Arman les avait découvertes grâce au siglage, les plus importants se voyaient néanmoins soumis à un certain ostracisme entre 2 fêtes ou 2 viréfax, et personne ne souhaitait rester en quarantaine. Quant aux relations sexuelles, tout le monde pouvait en avoir, et tout le monde, ou presque, le souhaitait. Arman en avait eu son comptant durant ses quasi 5-20. C'était seulement au cours des 10 dernières années, après qu'il eut appris à la dure comment déchiffrer les signes figurant dans les livres, qu'il s'était détaché des fêtes et des viréfax. Il avait peu à peu formulé une étrange idée. il existait quelque part une femme qui était faite pour lui, avec laquelle les relations sexuelles constitueraient une expérience hors du commun, une intimité qui n'aurait rien à voir avec les liaisons superficielles qui étaient le lot de tous les humains à l'ancienne. Une idée des plus étranges en vérité. Une idée que ses amis et connaissances auraient sûrement jugée insensée, mais il se garda bien de se confier à eux. Peut-être était-ce la jeunesse d'Ada, elle n'avait que 27 ans lorsqu'ils avaient fait l'amour, lorsqu'ils avaient découvert l'amour, qui lui avait permis d'embrasser l'idée romantique d'un engagement exclusif. Ils avaient même célébré leur cérémonie de mariage au château d'Ardis, et si l'immense majorité des 400 résidents avaient joué le jeu par politesse, y voyant surtout une occasion de faire la fête, quelques-uns d'entre eux, Pétir, Daeman, Anna, deux ou trois autres, avaient compris l'importance que cela revêtait pour eux. « Ce n'est pas en ressassant ce genre de souvenirs que tu vas te mettre en condition pour faire ce que tu dois faire, Arman. » Il se tenait à genoux, nu comme un ver, devant une femme qui, à en croire ce menteur d'avatar logosphérique disant s'appeler Prospero, dormait depuis un millénaire et demi. Quoi d'étonnant à ce qu'il ne se sente pas d'humeur à forniquer? Pourquoi ressemblait-elle autant à sa vie? Cette dernière était peut-être la plus extraordinaire personne qu'Arman ait jamais rencontrée. Courageuse, mystérieuse, ancienne, et même issue d'un autre âge, se montrant rarement franche, nantie d'habitude indéchiffrable pour Arman et ses semblables. Mais jamais elle ne l'avait attirée sexuellement. Il gardait un souvenir très net de son corps squelettique sous la thermopeau, tel qu'il l'avait contemplé sur l'île orbitale de Prospero. Cette jeune Savie n'avait rien de squelettique. Les siècles n'avaient pas atrophié ses muscles. Ses cheveux, sa toison, étaient noirs, pas d'un noir de jais comme chez Ada, mais d'un marron très foncé. Le soleil qui se reflétait sur la face nord du Chomolungma, d'où le vent avait fini par chasser les nuages, parait ses cheveux de nuances cuivrées. Arman distinguait les pores de sa peau. Ses mamelons tiraient sur le marron plutôt que sur le rose. Par sa fossette et son dessin vigoureux, son menton rappelait celui de sa vie, mais il était vierge des rides qu'il y avait observées, tout comme son front et ses tempes. « Qui est-elle ? » se demanda-t-il pour la énième fois. « Qu'est-ce que ça peut te faire, bon sang ? Si Prospero dit vrai, tu dois coucher avec elle pour la réveiller, et ensuite elle t'apprendra tout ce que tu dois savoir pour rentrer chez toi. » Arman se pencha jusqu'à reposer en partie sur la femme endormie. Celle-ci était allongée sur le dos, les bras le long du corps, les paumes collées à sa couche, les jambes légèrement écartées. Arman, qui se sentait déjà dans la peau d'un violeur, lui poussa la gauche d'un coup de son genou droit, puis la droite de son genou gauche. Elle n'aurait pas pu être plus ouverte, plus vulnérable. Et lui n'aurait pas pu être plus mou. Il se cala sur ses deux bras, comme s'il allait exécuter une série de pompes au-dessus de ce corps endormi. Il se tordit le cou pour sortir la tête du champ de force et avala plusieurs goulets d'air glacé. Lorsqu'il se laissa retomber dans le champ énergétique du sarcophage, il se fit l'impression d'un noyé en train de couler pour la troisième fois. Arman reposa de tout son poids sur la femme endormie. Celle-ci ne bougea ni ne frémit. Elle avait de longs cils noirs, mais sous ses paupières closes, ses yeux ne bougeaient pas, contrairement à ceux d'Ada lorsqu'il la contemplait la nuit durant son sommeil. Ada. Il ferma les yeux et se la remémora. Non comme la lui avait montré le Turin rouge de Prospero, blessée et inconsciente au sommet du rocher aux affamés, mais telle qu'elle était durant leurs 8 mois de vie commune à Ardis. Il se réveillait souvent en pleine nuit rien que pour la regarder dormir. Il humait son odeur de femme et de savon dans leur chambre de l'antique manoir où une baie vitrée donnait sur la nuit noire. Arman se sentit tressaillir. « Arrête d'y penser. Arrête d'y penser. Souviens-toi. » Il repensa à leur première fois. Il y avait de cela 9 mois, 3 semaines et 2 jours. Il voyageait en compagnie de Savi, de Daeman et d'Anna, et il venait tout juste de rencontrer Odysseus dans le Golden Gate à Machu Picchu. Cette nuit-là, chacun avait eu droit à sa chambre personnelle, l'un des globes verts accrochés au pylône orangé de l'antique pont, tels les grappes d'une vigne vierge, fixées en fait à un tunnel de verre courant sur la paroi d'acier, quelques 200 mètres au-dessus des ruines du plateau. Après que tous eurent regagné leurs domis respectifs, dont le sol était aussi transparent que celui de cette crypte, ce qui les avait quelque peu affolés, non, ne pense pas à cette crypte. Arman était sorti du sien pour aller toquer à la porte d'Ada. Elle l'avait laissé entrer, et il avait été frappé par le lustre de ses yeux. S'il était allé la voir, c'était pour discuter avec elle et non pour faire l'amour. Du moins, l'avait-il cru sur le moment. Il avait naguère repoussé ses avances, à Paris-Cratère, il se le rappelait, chez Marina, la mère de Daeman, dans l'une de ses tours en bambou 3 qui bordait l'œil rouge du cratère. Cette nuit-là, Ada avait risqué sa vie, ou à tout le moins un séjour à l'infirmerie, pour passer d'un balcon à l'autre, car elle aurait pu plonger dans le magma à l'issue d'une chute de 1500 km dans les profondeurs. Et il l'avait repoussée. Il lui avait conseillé d'attendre. Ce qu'elle avait fait, bien que ce fût sans doute la première fois qu'un homme se refusait à la belle Ada Dardis. Mais cette autre nuit, dans le globe translucide accroché au Golden Gate à Machu Picchu, entouré de toutes parts par des montagnes qu'il avait identifiées plus tard comme les Andes, 300 mètres au-dessus des ruines hantées, il était venu lui parler de quoi au fait? Oui, ça lui revenait. Il souhaitait la convaincre de retourner à Ardis, en compagnie d'Anna et d'Odysseus, pendant que Daeman et lui accompagneraient sa vie dans la fabuleuse Atlantide, où les attendait peut-être un vaisseau spatial capable de les conduire dans les anneaux. Pour parvenir à ses fins, il n'avait pas hésité à mentir. Mieux valait que ce soit elle qui présente Odysseus aux habitants du château d'Ardis, avait-il avancé. Daeman et lui ne seraient absents que pour quelques jours. En fait, il craignait que sa vie ne les embarque dans une aventure périlleuse, elle n'y avait pas survécu d'ailleurs, et même à ce moment-là, il ne souhaitait pas mettre Ada en danger. Même à ce moment-là, il savait que son âme serait brisée s'il arrivait malheur à Ada. Elle portait la plus évanescente des chemises de nuit en soie lorsqu'elle avait ordonné à sa porte de s'ouvrir, et c'était cette nuit-là qu'il l'avait possédée. Le clair de lune rehaussait d'un éclat laiteux ses bras et son visage pendant qu'elle discutait avec lui d'Odysseus et de son séjour à Ardis. Puis il l'avait embrassée. Plus précisément, il l'avait embrassée sur la joue, comme un parent ou un ami affectueux. C'était elle qui lui avait donné un vrai baiser, un baiser ardent, langoureux. Elle qui l'avait étreint pour l'attirer contre son corps, et ils étaient restés là, éclairés par la lune et les étoiles. Il se rappelait la fermeté de ses jeunes seins contre son torse à travers le mince tissu de sa chemise de nuit bleue. Il se rappelait l'avoir portée jusqu'au petit lit blotti contre la cloison incurvée et transparente. Elle l'avait aidé à se déshabiller, se montrant aussi empressée, aussi maladroite que lui, et pourtant pleine de grâce. Est-ce que la tempête avait surgi au-dessus des montagnes pour se déchaîner sur eux juste au moment où ils commençaient à faire l'amour sur cette couche étroite? Oui, plus ou moins. Il se rappelait le clair de lune baignant le visage d'Ada, baignant ses mamelons comme il prenait ses jeunes seins en coupe pour les porter à ses lèvres. Mais il se rappelait aussi le vent frappant le pont, secouant le globe avec une violence teintée de sensualité alors qu'eux-mêmes commençaient à onduler, Ada couchée sous son corps, les jambes autour de ses hanches, le saisissant de sa main droite pour le guider en elle. Personne n'était là pour le guider lorsqu'il pressa son sexe durci contre celui de la femme endormie dans la crèche de cristal. « Ça ne marchera jamais », se dit-il, bousculant le flot du souvenir et du désir. « Il va être sèche. Je vais devoir... » Cette pensée s'évapora lorsqu'il se rendit compte que, loin d'être sèche, cette femme était ouverte, accueillante et même humide, comme si elle n'attendait que lui depuis toutes ces années. Ada était prête à l'accueillir. Humide d'excitation, la bouche aussi chaude que la vulve, elle l'enserrait dans ses bras, lui caressait le dos de ses ongles, tandis qu'il bougeait doucement en elle et avec elle. Leur baiser était d'une telle sensualité qu'Arman, 99 ans révolu, le plus vieil homme qu'Ada ait jamais connu, s'était cru sur le point de défaillir d'extase à l'instar d'un adolescent. Il bougeait à la cadence du globe secoué par les vents. Tout doucement d'abord, pendant ce qui leur parut être une éternité. Puis, avec une passion sans cesse montante, avec de moins en moins de retenue, car Ada l'encourageait à oublier toute retenue, car Ada s'ouvrait à lui, l'encourageait à la pénétrer, l'embrassait, l'étreignait avec toute la puissance de ses bras, de ses cuisses, de ses ongles. Et lorsqu'il avait joui, Arman avait tressailli en elle pendant un très long moment, et Ada, à son tour, avait tressailli, une succession de secousses intérieures qui semblait monter de l'épicentre de son âme, tant et si bien qu'il avait cru que c'était sa petite main, et non son corps tout entier, qui le pressait jusqu'au cœur, le relâchait, le pressait encore et encore. Arman tressaillit à l'intérieur de cette femme qui ressemblait à sa vie sans pouvoir être sa vie. Il ne s'attarda pas, se retirant presque immédiatement, le cœur malade de honte et peut-être même d'horreur, tant il était empli de son amour pour Ada, de ses souvenirs d'Ada. Il roula sur le flanc et se mit à halter, allongé à côté de ce corps de femme sur une couche en fibre métallique. Les courants d'air chaud incitaient au sommeil. L'espace d'un instant, Arman songea à s'endormir, à plonger dans un sommeil de 1500 ans comme l'avait fait cette femme, à oublier les dangers qui menaçaient son monde, ses amis et sa bien-aimée, ce parfait amour qu'il venait de trahir. Un infime mouvement l'arracha à sa somnolence. Il ouvrit les yeux et son cœur faillit le lâcher lorsqu'il vit que la femme en avait fait autant. Elle le considérait d'un regard où se lisait une froide intelligence, une lucidité impossible chez quelqu'un qui avait dormi aussi longtemps. «
Qui êtes-vous ? »
demanda la jeune femme avec la voix de feu sa vie.